bénissons ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges, c'était vraiment super. Je suis content de pouvoir jouer à la batterie, ça m'a fait plaisir de t'entendre. Il y a des visages que je connais et puis beaucoup que je ne connais plus. Donc je suis marié à Sarah, qui est une des filles de Marc et Denise, qui est là, qui est, je pense, avec les enfants. Elle est là-bas, donc vous pourrez la voir tout à l'heure. On a deux petites filles, une qui s'appelle Olivia, qui a 4 ans et demi, et une autre fille qui s'appelle Nina, qui a 2 ans et demi. On est des parents heureux. Et je dis souvent, moi, en rigolant, parce que c'est pas vrai, mais ce qui a changé notre vie, enfin, avoir des enfants, ça a surtout changé nos nuits. Et ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. Bon, après, on a eu beaucoup de joie. Mais Olivia se réveillait jusqu'à 10 fois la nuit. Et pendant les 2 premières années, c'était tellement fatigant. Mais vous savez, après, on va vers elle, et puis elle se recouche, et puis ça y est, notre cœur bat à nouveau, et puis c'est reparti, et puis ça va, on n'est plus en colère, et on laisse passer, quoi. Alors voilà, on est vraiment très heureux. On sert le Seigneur dans une église au Havre. Et un visage que je vous ai... On a déjà fait des temps de prière à Paris, non, avec Esther, ensemble. Oui, c'est ça, non? Oui, vous. Je ne sais plus, comment vous vous appelez? Nadia. Enfin, je me souviens, bref, voilà. Nadia, tu faisais des temps de prière dans une église, non, avec Esther. Avec Peps, c'est ça, etc. Avec Peps, c'était super. Paris en prière, ça fait longtemps. On avait failli venir au Havre à Paris avec Sarah, et j'ai cherché, le premier chose que j'ai cherché, c'est un groupe de prière. Et j'étais venu vous voir, finalement on n'est pas resté à Paris, le Seigneur nous a ramenés au Havre. Mais c'était très encourageant ce que vous viviez, et que le Seigneur te bénisse, ça me parle encore aujourd'hui. Donc j'aime vraiment servir Dieu. Servir Jésus, c'est ma passion. Et j'espère que je parle à des passionnés ce matin. Et si tu n'es pas passionné, j'espère que tu ressortiras de ce lieu avec la passion, avec le feu, parce que vraiment, je suis enflammé. Et parce que Jésus a changé nos vies. Amen. Et quand on chantait « Jésus revient », moi, ça me fait penser que Jésus est déjà venu une fois. Ok ? Et il est venu jusqu'à nous. Et ça, c'est trop bon. C'est-à-dire que souvent, la religion va te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu accèdes à Dieu ? Il faut que tu pries 5 fois, peut-être chez les musulmans, chez les bouddhistes, je ne sais pas. Il faut que tu fasses un jeûne de 15 mois, j'en sais rien. Mais Jésus est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas une question de comment tu peux faire pour aller jusqu'à lui. Il est déjà venu. Amen. Il est venu, il est mort à la croix. C'est pour ça qu'on a pris la scène ensemble. La scène, c'est un moment de joie, c'est une table de réconciliation. J'espère que tu es réconcilié avec ton Père dans le ciel ce matin. C'est un temps de joie. Jésus est venu jusqu'ici sur cette terre. Il a vécu comme nous avons vécu, comme nous vivons aujourd'hui. Il est mort, ressuscité. Il envoie son esprit qui vit en nous aujourd'hui. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut vivre dans ce monde avec la foi, avec le courage, avec la force. Parce qu'il vit en nous. Amen. Vraiment, j'ai envie, j'ai à cœur de t'encourager. Mais il faut que j'aille un peu plus loin parce que la réalité, c'est que je suis venu présenter une conférence. Mais j'ai presque pas envie de présenter la conférence, j'ai envie qu'on parle de Jésus, en fait. Mais il faut que je le fasse, parce que je suis venu pour ça, quand même. Alors, avant, oui, Graine d'espoir. C'est une des missions que le Seigneur m'a données en mars 2017, alors que je travaillais comme mandataire judiciaire au Havre, auprès du juge des tutelles. Le Seigneur, pendant la nuit, m'a donné un rêve et m'a parlé sur un proverbe. Toi, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. J'ai une formation d'éducateur spécialisé, donc ça m'a toujours parlé, la relation avec les gens, avec les autres, particulièrement ceux qui passent par des moments compliqués. Et le Seigneur m'a dit, ok, lève-toi, tu vas quitter ton travail. Je ne te dis pas de le faire à toi maintenant, c'est pas... Il m'a dit les choses comme ça, tu vas quitter ton travail parce que tu vas lancer l'association avec l'église Graines d'Espoir et vous allez commencer une œuvre, une mission au Havre parmi les gens de la rue, les gens qui sont dans la galère. Et quand on se réveille le matin et on se dit, waouh, Seigneur, ok, je veux bien. Donc on commence à écrire, on commence aussi à compter, hein, vous savez, parce que si je quitte mon travail, le salaire, etc., et Seigneur, j'en parle à mon pasteur, j'en parle à l'équipe pastorale. Voilà, le Seigneur a parlé, mais vous savez, faut vraiment bien poser les choses. Parce que Dieu m'a dit, excusez-moi, je me méfie parfois des Dieu m'a dit. Parce que Dieu parle des fois à tout le monde. Dieu m'a dit d'aller là-bas, Dieu m'a dit de revenir, Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit de quitter l'église. Ah bon, Dieu te dit de quitter l'église, mon ami? Je sais pas si c'est Dieu qui te dit ça. Dieu me dit d'arrêter ça. Dieu me dit de moins le servir. Dieu me dit de prendre du temps pour moi. Non. Le Seigneur te dit de prendre du temps pour les autres et il prendra soin de toi. Vous voyez, c'est comme ça. Alors des fois, Dieu... C'est pour ça qu'il faut aller vers les gens. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer de... Et puis je leur soumets ce rêve, cette vision. Je dis voilà, maintenant je n'avancerai pas s'il n'y a pas un feu vert de Dieu clair. S'il ne parle pas de la bouche de plusieurs, s'il n'intervient pas, s'il ne convainc pas les cœurs. Mon cœur était convaincu, mais vous savez, des fois les convictions, il faut aussi... Voilà. Et c'était en mars et fin avril, il y a le pasteur Pascal Bonaz, pour ceux qui connaissent, qui vient à l'église et puis il commence à parler... Alors j'en avais parlé à l'équipe pastorale et on était vraiment resté dans le silence là-dessus parce que ça impliquait des choses. Et il parle et puis j'avais dit à Dieu, c'est ce matin ou rien. Parle par la bouche de ton serviteur. Et le temps de leader termine, il prie, c'est terminé, tout le monde vient se lever. Et puis là, il dit, attendez, j'ai juste une dernière chose. Et moi, je bouillonnais, je dis, c'est le moment. Et oui, c'était le moment. Et il commence à dire, il y a quelqu'un parmi vous qui a, le Seigneur lui a donné un rêve. Et ça s'appelle, il y a le mot espoir dedans. C'est une œuvre sociale parmi la ville du Havre. Et le Seigneur te dit qu'il ouvre les portes à la ville, il ouvre les portes au département. La seule chose que je te demande, ne travaille pas seul. Et alors qu'il dit ça, c'est incroyable. On est passé de rien à tout. Et là, il y a un des frères qui était chef d'entreprise qui vient me voir. Il dit, écoute, on met un local à ta disposition en centre-ville, ça sera ton bureau. Je vais voir mon patron. Bref, tout se fait comme il faut. Le 2 octobre 2017, on commence Graines d'Espoir. À l'heure d'aujourd'hui, on a accompagné plus d'une centaine de personnes. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en 2 ans. On est 3 à travailler maintenant pour cette œuvre. Moi, j'y travaille, j'y touche, j'y gagne un salaire. Au début, j'y suis allé par la foi sans demander rien du tout. Et les portes se sont ouvertes à la ville du Havre, au département. On a des conventions qui ont commencé à prendre place avec la ville, mais vraiment de manière incroyable. Tu peux passer à la slide suivante. Dans ce temps-là, il y a un frère qui est venu vers moi qui a dit, moi j'ai à cœur de créer une entreprise d'insertion. Alors ensemble, on a créé Déclic est une entreprise à vocation sociale. On a récupéré des appels d'offres avec la ville du Havre. On a embauché jusqu'à 12 personnes la première année. Aujourd'hui, on a 3 personnes à temps plein pour Déclic qui travaillent. C'est des gens qui étaient éloignés, dont une personne qui était à la rue, qui travaille maintenant, qui a un logement. Je peux vous dire que Dieu est bon. Amen. Et quand il donne un rêve, quand il donne une vision, il l'accompagne de la provision. Alléluia. Et on n'a jamais manqué de rien. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Et je peux le témoigner, et je veux le témoigner partout où je passe. C'est très important, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et vraiment, si tu as des rêves, si le Seigneur t'a donné quelque chose à cœur, cultive ce rêve. Non pas cultive ton rêve. Mais cultive le rêve de Dieu pour toi. Amen. Moi, si j'avais cultivé mon rêve, je serais parti à l'école biblique au Canada. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, mon ami, c'est ici que ça se passe, mais je vais te former sur le terrain. Tu vas prendre la responsabilité du groupe de jeunes et tu vas te frotter aux jeunes et ça va être compliqué, ça sera pas simple. Et là sera ta formation. Ok? Et ça a commencé comme ça. C'était le rêve de Dieu pour moi. Alors j'ai accepté son rêve. Il est devenu mon rêve et j'ai décidé de courir avec persévérance. Amen. Salut Nathan, ça va? Il y a quelques visages inoubliables. Tu peux aller à la suivante. À bientôt 10 minutes. On m'a donné 45 minutes. Je vais tout faire pour les respecter. Alors, je viens vous présenter cette conférence qui s'appelle Expansion. C'est pour les jeunes de 14-15 ans jusqu'à ce que tu penses que tu n'es plus jeune. Ça s'appelle Expansion parce qu'on se base vraiment sur le livre d'Actes des Apôtres. On croit que l'Église doit connaître pleinement cette expansion. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que des hommes, des femmes ont parlé un jour, ok ? Et on est là. On souhaite Expansion comme un mouvement, une conférence annuelle pour les jeunes qui se passera pour les 2 prochaines années sur Grenoble à l'église du Chandelier. Mais on l'imagine aussi comme des mouvements de prière dans l'année, à Paris peut-être, au Havre, à Grenoble, à Nice, à Paris, où les jeunes se retrouvent pour prier, intercéder par les jeunes pour la jeunesse de France. Amen. Je crois fermement en l'impact de la prière. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Et c'est vrai. Quand tu plies le genou, quand tu intercèdes en faveur d'eux, tu te descends de toi-même. Tu n'es plus le centre d'intérêt, tu n'es plus le point central de tout. Parce que la réalité, c'est que ce monde, il te dit que tu es tellement important. Oui, aux yeux de Dieu, tu es important, mais pour ce monde, crois-moi, tu n'es rien. Ce monde, s'il peut te piétiner, il va te piétiner. Alors que l'Église, nous, on est appelés à s'élever les uns les autres. Et j'espère que vous pouvez vous regarder et dire, ben moi, j'élève mon voisin. Moi, je t'encourage, vas-y. Batteur pour l'éternel, et bien plus encore, je ne veux même pas te limiter. Encore, sers le Seigneur, prie Dieu. Vis le temps de jeûne qui arrive. Le temps de jeûne qui arrive, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. Amen. Alors que tu jeûnes, tu dis à ton corps, je te maîtrise. Tu maîtrises ton corps. C'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, vous savez. Tu maîtrises ton corps, tu dis non. La faim est une chose, oui j'ai faim. Mais ma priorité, c'est Dieu maintenant. Et je décide de prier. Je décide de me mettre à part. Crois-moi, ton estomac, il va réclamer ses droits. Mais viendra le temps, tu lui laisseras à nouveau ses droits, ok? Et vas-y en douceur, va pas au McDo tout de suite, ça va être compliqué, ok? Mais prends le temps de prier, prends le temps d'intercéder, et faisons-le ensemble. Ne me dis pas, je le fais chez moi, j'espère bien que tu le fais chez toi, c'est vital pour ta vie. Mais fais-le avec l'Église, faisons-le ensemble, alléluia! Ok, donc il y a une conférence, on va aller vite. Vous allez sur le site conférenceexpansion.org, je suis le plus mauvais publicitaire, et vous avez toutes les informations. C'est une conférence jeunesse. Les jeunes, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, Jean-Philippe, embarque les jeunes, vas-y. Il y a Thibaut Guéhère qui sera notre intervenant, qui est pasteur sur Grenoble, qui est vraiment un homme de foi et dynamique, de Mulhouse, pardon. Il y a la louange sera un collectif expansion. Vous pouvez voir Mickaël, Pierre, Louis ici. Certains le connaissent, sera un des leaders de louange. Il y aura Esther aussi. Et il y aura toute une autre équipe qui vient de toute la France. Il y aura des ateliers, de l'espace détente, des repas, bien sûr. Tout ça, vous trouverez sur le site. Vous pouvez continuer. Passe conférence à 40 euros pour toute la conférence. Tu peux continuer encore. Et tu as toutes les informations sur conférenceexpansion.org. OK ? Ça, c'est fait. Alors, je vais pouvoir rentrer dans le vif de mon sujet. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin? Ouais? Ok. Ok, non. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce matin? Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut être amoureux de Jésus. Souvent, on nous dit, non, les sentiments, c'est pas... Mais bien sûr, Jésus avait des sentiments. Jésus même pleurait, Jésus se réjouissait, Jésus faisait la fête, je crois. Son premier miracle, attention, transforme l'eau en vin. Pardon Marc. Transforme-le en vin. J'ai fait le choix il y a quelques années de stopper l'alcool. Il m'arrive de temps en temps d'en prendre, non pas pour le plaisir de mon beau-père, mais parce que, effectivement, quand tu accompagnes des gens, des fois tu vois des situations de vie que l'alcool a ravagées et j'ai juste pas envie de participer à ce business-là. Ça, c'est mon choix personnel. Mais la réalité, c'est que Jésus a transformé l'eau en vin. Il a permis la fête, ok ? Et c'est dingue. Jésus vivait, Jésus avait des sentiments, et je crois qu'il est bon d'être amoureux de Jésus. Dans l'Apocalypse, il est précisé à l'Église, réveille ton premier amour, réveille-toi. Réveille où tu en es avec ton premier amour. Et je te pose la question ce matin, où tu en es avec Jésus ? Est-ce que ça bat toujours là-dedans ? Est-ce que ça bat toujours ? Ou est-ce que non, aujourd'hui, c'est plus tout est centré sur toi, Jésus, c'est tout est centré sur moi, Jésus. Vous voyez, je reviens au cœur de ma vie, Seigneur, là où tout a commencé, c'est à la croix. Et Jésus, il t'appelle pour aller vers les autres. Le titre de mon message ce matin, c'est de disciple à faiseur de disciples. Je me souviens quand Sarah m'a dit oui, Sarah, donc mon épouse, je me suis mis à genoux, je l'ai fait bien, et il y avait beaucoup de vent, j'avais peur que la bague, elle part, là, comme dans les films. Je me suis mis à genoux, et elle m'a regardé, bref, vous connaissez, elle a dit oui. Et dans mon cœur, ça a explosé. C'était juste trop bien, je me suis dit, wouh, ça y est, c'est parti, je suis engagé, je vais, Seigneur, merci de me l'avoir donné, mais vraiment, ça a explosé dans tous les sens, au point que ma photo de profil Facebook a changé, mes pseudos ont changé, vous voyez, tout mon réseau a changé, j'ai commencé à parler autour de moi de Sarah jusqu'à fatiguer tout le monde. Mais c'est parce que quand tu es amoureux, excuse-moi, je poussillonne beaucoup, je vais aller, Denis, Seigneur. Quand tu es amoureux, tu ne te contrôles plus, en fait. Et amoureux de Jésus, c'est pareil. Amoureux de Jésus, tu ne te contrôles plus. Moi, mon réseau social, Instagram, Facebook, ça peut être le pire danger. Je crois que c'est très dangereux. Mais moi, j'ai décidé de le vouer au Seigneur. Donc, tout ce que je vais mettre dessus, ça va être un encouragement. Récemment, j'ai mis plusieurs encouragements pour prier pour l'église persécutée. Et puis, j'y vais, où je fais de la pub pour expansion, où j'encourage. Voilà, j'ai décidé ça. Et quand ça commence à prendre trop de place dans ma vie, parce que croyez-moi, ce truc-là, ça prend trop de place dans ma vie. Je suis responsable de jeunes et j'entends souvent les jeunes me dire « Mais j'ai du mal à lire, c'est compliqué de lire la Bible. » Tu peux passer 2 heures là-dessus à défiler, scroller, à lire tout un tas de bêtises, à regarder des vidéos. « Oh, un chat qui rigole, c'est trop... » On passe, il paraît qu'en France, c'est 2 heures par jour en moyenne. 2 heures par jour en moyenne. Moi, je trouve ça terrible qu'on n'ose dire « je n'ai plus le temps de lire la Bible ». C'est terrible. Et moi-même, je me prends à ça. Hein. Je ne suis pas là pour juger, je sais très bien de quoi je parle, sinon je n'en parlerai pas. Vient le temps de lire la Bible, c'est toujours tu es allongé dans ton lit, tu dis « tiens, maintenant que j'ai tout lu, il y a cette voix qui vient en toi, tu dis « ce serait bien de lire la Bible quand même ». Et là, tu lis la Bible et tu pries d'une onction de sommeil très forte. Mais c'est normal, tu es allongé dans ton lit, tu vois, et ça fait 2 heures que tu regardes un écran, ton mental a été sursollicité, et d'un coup, mais c'est logique. Mon ami, prends-toi un temps à part où tu lis la parole de Dieu, où tu mets ça, non pas en mode avion, mais j'appelle ça en mode prière. Ça ne devrait pas être un avion, ça devrait être un petit icône comme ça, ok? Tu mets en mode avion, tu coupes, il n'y a pas de sollicitation, personne ne peut t'appeler, il n'y a pas de mail, il n'y a rien du tout. Tu le mets de côté, prends le temps de prier, Seigneur, je viens dans ta présence. J'ai pris ce temps à part parce que c'est ma priorité. C'est ma priorité. Te connaître, Jésus, c'est ma priorité. Et vous savez, quand on va vers le Seigneur, quand on vient vers lui, alors sa priorité devient notre priorité et vous remarquerez que toujours, on vient se tourner vers l'autre. Toujours. Le mot disciple, il est présent plus de 270 fois dans la Bible. Le mot chrétien, il est présent 3 fois. Souvent, on dit, oui, je suis un chrétien, c'est ça. Pourquoi on les appelait les chrétiens? Ils étaient comme Christ, c'était des petits Christ, c'est ça, c'est beau. Le sens du mot chrétien, c'est magnifique. C'est-à-dire que les gens, à l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, aux signes qui accompagnaient ceux qui ont cru, ils les regardaient, ils disaient, mais eux, c'est des chrétiens, ils agissent comme Christ. Moi, j'ai envie, je suis fier d'être chrétien alors. Je suis fier et j'espère que les gens peuvent dire, lui, il est chrétien, il agit comme Christ. Ou lui, il fait la différence. Lui, il va pas dans les fêtes du monde. Non, voilà. Un disciple, c'est avant tout un étudiant, quelqu'un qui se met à l'école de Jésus, quelqu'un qui choisit Jésus comme maître, qui marche sur ses traces, qui cherche à l'imiter. Et là, je ne te fais pas de mystère, ça engage ta vie. Suivre Jésus engage ta vie. Et si on ne t'a pas présenté Jésus comme ça, alors il y a un souci. Parce que moi, le Dieu de la Bible que je connais, quand je vois Jésus, il dit, si quelqu'un veut marcher après moi, vous connaissez, hein, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi, c'est tout un programme. Ça implique l'obéissance. Et on a du mal avec l'obéissance. C'est la réalité. J'ai du mal à obéir. Genre, attends, tu peux faire ça? Et attends, à qui tu parles? Non, obéis, vas-y, fais-le. Serre, partout où on te demande de ranger les chaises même, range les chaises. On te demande de mener un groupe, vas-y. On te demande d'aller dans la rue, vas-y. Moi, j'ai fait ce choix-là, d'obéir. D'obéir à mes autorités aussi. Et je ne dis pas ça parce que Marc est mon beau-père, mais c'est une réalité. Moi, je me l'implique à moi-même. Mon pasteur, juste, je le suis. Il m'a embarqué dans des trucs, des fois, je me disais, oh, c'est pas possible. où je suis tombé. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il n'y a pas longtemps, on a fait 6 jours de jeûne et prière, et avec un 24/7 prière, jour et nuit. On se retrouvait la nuit à prier. Et là, l'onction de sommeil, elle est forte, je t'assure. Quand tu es tout seul, parce que c'est toi qui gardes la veille, là, tu dis, il ne faut pas que je dorme. et c'est là que tu te rends compte qu'on n'est pas habitué à prier. Vous savez, les 15 premières minutes, tu es là, oh Seigneur, oh oui, tu es bon, guéris ce pays. Et puis là, le temps d'après, 1 heure, 2 heures, 3 heures, en pleine nuit. Et là, comme tu commences à dire, tu rentres en méditation. et tu dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je prie? J'y suis allé à fond, là, j'ai fait mon cinéma. Maintenant, en fait, je veux ton cœur. Pourquoi tu veux que je prie? Et là, il commence à mettre dans ton cœur tout ce que tu as pris avant, c'est pas mauvais. Mais là, il commence à dire, on a prié pour lui. prie pour elle, va là, parce que tu prends du temps. Amen. C'est autre chose de tes 15 minutes, de ton Facebook, là. Croyez, un papy qui parle, mais il n'y a pas longtemps, avec un jeune véridique, on est allé voir une dame, 70 ans, l'âge de ma maman, on va la voir chez elle, et on était deux jeunes, moi j'ai 35 ans, je suis jeune, et on arrive là, et elle commençait à nous dire, mais moi je suis telle personne, et elle nous montrait Facebook, elle dit, moi je suis, etc. Et nous, on était deux jeunes à lui dire, mais décroche des réseaux sociaux, sors de là. Et c'est en sortant, ce jeune-là, qui est un disciple, je lui dis, c'est lui qui me dit, franchement, les temps, ils ont changé, hein, c'est fou. Hein. On était en train de lui conseiller de plus aller sur Facebook. Quoi. Et c'était vraiment rigolo, parce qu'elle se laissait aller à tout vent de doctrine. Le pasteur, machin, la pasteur, etc. Et puis la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle en est où? Non, non, moi je suis les pseudos. Voilà, on donne une petite infusion par-ci, par-là, un petit message. C'est pas ça la parole de Dieu. Et je sais, je pense que j'en dérange. Si je te dérange, eh ben sache que je me dérange moi-même, parce que je suis souvent là-dedans aussi. Et je combats ça parce que je veux pas de ça. Je veux pas de ça parce que je connais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle procure la vie. Et ça ne me procure pas la vie. Ok ? Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La première chose qui caractérise un disciple, c'est qu'il se met en mouvement. Allez et faites de toute nation des disciples. Allez et faire, ça implique de se bouger. Dieu ne nous appelle pas à vivre, oui, il nous appelle à vivre l'Église, mais pas l'Église statique où tu viens, Tu manges le message qu'on te donne, tu vis le temps de louange avec les picotements qui vont avec, et tu repars comme tu es venu. C'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église. Tu viens, tu vis la louange, le culte d'adoration avec les frères, les sœurs, tu vis la communion fraternelle. Et c'est pas seulement le dimanche, tu le vis tous les jours. Donc quand tu arrives le dimanche, c'est pas nouveau pour toi, parce que tu le vivais même avant de venir encore ce matin. Et là, tu vis la louange. Et là, tu n'es pas bloqué dans tes prières. Ta bouche n'est pas fermée parce que tu as l'habitude de prier. Et tu as l'habitude de prier à voix haute. Souvent, moi, j'ai des jeunes qui me disent, moi, je n'arrive pas à prier à voix haute. Et je l'entends, ça m'est arrivé aussi. Mais quand tu pries à voix haute, tu commences à déclarer. Et le monde spirituel entend ce que tu déclares. Donc, il y a une puissance quand tu ouvres ta bouche. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu commences à proclamer. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Amen. Dieu est fidèle et il ne me laissera pas sur le chemin. Il prendra soin de moi et ma famille. Tu commences à le proclamer à haute voix. Je t'assure que ton cœur, là, il va commencer à exploser. Hein. Donc la première chose qui caractérise un disciple, il se met en mouvement. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il fait. Il se met en action. Jean 15, 14 dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Faites ce que je vous commande. Allez. Et la troisième chose, c'est il obéit. On en a parlé rapidement de l'obéissance. Acte 5, 29 dit, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » À qui obéis-tu? À qui as-tu donné ta vie? Elle appartient à qui, ta vie? J'espère qu'elle appartient à Dieu. Souvent, on dit, Dieu, ma famille, l'Église, Snoopy, mon petit chien, les machins. Mais c'est des blagues, tout ça. C'est Dieu. Dieu dans tout. Ne vois plus ta vie comme une succession. Vois Dieu au centre. Et vois Dieu dans ta famille. Et vois Dieu dans ton travail. Parce que Dieu t'appelle à renoncer à toi-même. Dieu t'appelle à la mort à soi. Donc c'est pas aujourd'hui je vis l'Église. Et ce midi, c'est la famille. Je coupe avec l'Église. Non, c'est Dieu dans tout. Dieu dans tout. Et parce que tu fais ça, tu vas voir la différence. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Parce que tu cherches Dieu, parce que tu poursuis sa présence, tu vas voir la différence. Alors, est-ce que tu es un sympathisant, un adepte, un chrétien de nom ou un disciple de Jésus-Christ? Plutôt, qu'est-ce que tu veux être? Un adepte? Un chrétien de nom ou un disciple de Jésus-Christ, un témoin fidèle. Entre Matthieu 4 et Matthieu 28, on passe du mode de disciple à faiseur de disciples. Et ça m'intéresse beaucoup, ça. Je vous assure, il me reste 15 minutes, je vais pratiquement les tenir. 20 minutes. Quand on entend disciple, on pense souvent aux 12 disciples choisis par Jésus. Et on peut lire ensemble Matthieu 10, versets 1 à 10. Je crois que je l'ai mis ici. Non, donc ça viendra après. Matthieu 10, versets 1 à 10. Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute langueur. Or, ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. J'aime beaucoup Pierre aussi. Je suis fan de Pierre. Et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, c'est une histoire de famille. Thomas et Matthieu, le péager. Jacques, fils d'Alphée et Lebé. Simon, le cananite. Et Judas Iscariote, celui qui le livra. Verset 5, ce sont ces 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné ses ordres, en disant « N'allez point vers les païens et n'entrez pas dans une ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez en route, prêchez en disant « Le royaume de Dieu s'est approché. » Guérissez les malades. » Ça nous parle à nous aujourd'hui encore. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni cuivre dans vos ceintures, ni sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Amen. Jésus, d'une certaine manière, il se multiplie par ses disciples. Jésus savait, il allait à la croix, il connaissait sa mission. Ok ? Mais avant d'aller jusqu'à la croix, il a formé les disciples. Il a formé du monde. Il s'est multiplié par ses disciples. Une fois que les disciples ont compris les bases, et allez au cours de base si vous commencez la foi chrétienne. Il a enseigné les bases et il s'est multiplié par ses disciples. Et après, il les a envoyés. Et puis, ils ont commencé à chasser les démons. Ils ont commencé à guérir les malades. Et après, ils revenaient vers Jésus comme des fous. Voilà ce qui se passe. Regarde, regarde. C'est quand la dernière fois que tu as ressuscité un mort ? Est-ce qu'il y a... Ça serait tellement merveilleux de pouvoir se poser cette question-là et dire, moi, c'était la semaine dernière, et moi, il y a... Parce qu'on est appelé à ça. Alors souvent, on va tout centraliser sur des choses qui sont... le parler en langue. Et Paul dit, moi, je parle en langue plus que tous. Et on va tout centraliser là-dessus. On va même se faire la guerre là-dessus. On va dire, non, moi je crois que c'était avant, moi je crois que c'est maintenant. Et on va perdre notre temps. Au lieu de répondre à la mission d'aller faire des disciples, tu parles en langue. Très bien, que le Seigneur te bénisse. Et vas-y, pratique. Toi, tu n'es pas encore là. C'est pas grave, tu as la même mission que lui. Va et fais des disciples, tu as reçu le Saint-Esprit. Ok ? Et on se fait la guerre entre nous. C'était mieux avant. Ah, tu comprends, c'était mieux avant. Ah là là, quand il était là, quand elle était là. Oh, c'était fort, etc. Mais lui ou elle, il est parti ailleurs. Il est parti ailleurs. Il sert le Seigneur ailleurs. J'espère. Il est parti dans le monde. Prie. Mais toi, continue à travailler. Continue à œuvrer. Peut-être c'est à toi de prendre la place maintenant. Peut-être c'est à toi de te lever. Souvent on dit ça. Ça serait tellement bien d'avoir peut-être un groupe d'hommes ici. Et je ne sais pas s'il y a un groupe d'hommes. Il y en a un, super. Imaginons qu'il n'y en a pas. Ça serait tellement bien qu'il y ait un groupe d'hommes. Ça serait génial. Ça serait super. Et on se dit ça pendant des mois et des mois et des mois. Mais peut-être c'est à toi de te lever et de monter le groupe d'hommes. Ça serait tellement bien qu'il y ait une structure sociale, qu'on ouvre un café ici, qui soit ouvert peut-être 3 jours par semaine. À chaque fois que je vois cette entrée, je vois des cafés dans toute la rue. Qui va se lever pour ouvrir un café ici ? Qui va se lever ? On ouvre un café ici, sans y aller à coups de Bible au premier qui rentre. Jésus, Jésus, non ! Paye-lui un café ! Même il va payer son café. Et tu passes un bon temps avec. Et il sait qu'il est rentré dans la maison de Dieu. Il va le sentir. Il va côtoyer un disciple de Christ. Tu n'auras même pas besoin de parler. Pierre, il marchait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Il n'avait même pas besoin d'imposer les mains. Mais non, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la vie de Jésus en toi. Tu feras la différence. Mais pour ça, il faut que tu agisses. Il faut que tu te lèves. Amen. La stratégie de Christ, elle n'a pas changé. C'est toujours les disciples. Le discipulat, faire des disciples. Et je lisais un livre de David Platt qui dit « Suis-moi, c'est mon deuxième point, j'ai 3 points. » Et il disait « Quand quelqu'un m'avoue qu'il se sent loin de Jésus, c'est juste après. Quand quelqu'un m'avoue qu'il se sent loin de Jésus, je lui demande s'il est en train de faire des disciples. Après tout, la promesse du Christ d'être avec nous est directement liée à son ordre de faire des disciples. Tout chrétien désire expérimenter la puissance du Saint-Esprit, mais nous oublions souvent que cette puissance nous est donnée dans le but de devenir ses témoins. Chaque véritable croyant aspire à voir Dieu à l'œuvre, mais cela n'est possible qu'en étant son témoin et en faisant des disciples. Amen. l'Église, aujourd'hui, je vais faire une généralité, je sais que ce n'est pas vous aujourd'hui, mais elle est très centrée sur elle-même. On fait de la bobologie un peu, vous voyez ? Oh, j'ai mal là, oh, tu as mal, etc. C'est bien. Le Seigneur donne les pasteurs pour prendre soin, les bergers, les anciens, c'est bien. Et nous-mêmes, on est tous appelés à prendre soin des uns des autres. C'est bien. Mais on oublie un moment la notion, la grande mission que Dieu donne à l'Église d'aller, excusez-moi, je vous oublie sur le côté un petit peu, d'aller et de faire des nations de disciples, d'aller vers l'extérieur. Quand David Platt, ici, dans son livre « Suis-moi » à la page 16, il dit ça, je trouve que c'est très juste. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Où ça ? Ils ont commencé à Jérusalem, ensuite dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ils ont obéi, ils ont fait ça. Et nous, on continue cela aujourd'hui. Mais la suite du verset, ça dit quoi ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous dans sur vous, vous serez mes témoins, etc., etc. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est complètement lié à l'ordre d'avant d'aller faire de toute nation des disciples. Et parfois, on est là, on se dit, comme il dit, « Mais Seigneur, où es-tu ? Je me sens si loin de toi. Tu es tellement, Seigneur, j'ai besoin de toi, reviens. » Et lui, je pense que parfois, il nous regarde, « Mais je suis là, mais je t'ai demandé d'aller faire des disciples. Moi aussi, je t'ai demandé d'y aller, je t'ai demandé de prendre soin des autres. T'occupe pas de toi, occupe-toi de moi. Occupe-toi de mon royaume, occupe-toi de ce que je te demande. Et tu verras si je ne vais pas ouvrir les portes pour toi. » Amen. C'est un autre regard. On se descend de nous-mêmes. Servir Dieu à un coup. Vous savez ça, Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié la tête en bas à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Christ. On parle d'hommes comme vous, comme moi. Pierre, celui qui a renié. Hein ? Il a renié. Mais après avoir renié, il s'est repenti. Oui, Jésus est venu vers lui, même tu, Pierre, une fois. Ça rappelle le reniement, non ? Même tu, Pierre, deux fois. Même tu, Pierre, trois fois. Après, il vit la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, c'est langue de feu. Pierre prêche 3000 âmes. 3000 âmes qui se tournent vers Christ. Lui qui, quelque temps avant, reniait Jésus devant tous. Et Dieu est bon. Il l'utilise, celui qui l'a renié. C'est pas grave. Parce qu'il a le cœur repentant. Amen. Peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait même hier, si ce matin tu dis non, je veux changer de vie, je décide de vivre pleinement comme un disciple de Christ, alors le Seigneur est là, il t'attend, il t'équipe et il t'envoie. Il n'y a pas de souci, ok ? Et tu marches avec son esprit, avec la force qu'il te donne. Jacques, il était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu. Il a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Je continue ? C'est vendeur, hein ? Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié et puis décapité. Excusez-moi s'il y a des enfants, non, il y a l'école du dimanche. Super. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il y est mort, transpercé par une lance. Je vais continuer. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort, tué par l'épée. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyr par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos où il rédigea l'Apocalypse, il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Qui veut suivre Jésus ? Amen. Tous ont répondu à l'appel d'aller et de faire de toute nation des disciples. Je me souviens des conférences jeunesse, ce qui me parle beaucoup, il y a 20 ans, j'avais 15 ans. Les thèmes, c'était souvent 100% Jésus, sans compromis, vie ta vie à fond. Enfin non, c'était pas vie ta vie à fond, justement. Genre la mort à soi, on prêchait ça vraiment. Je me souviens de ça. Je me souviens avoir répondu à un appel pour ceux qui veulent accepter Jésus et le servir dans la sueur, dans le sang, dans les larmes. Franchement, c'était pas vendeur. Et là, voir des centaines de jeunes s'approcher à genoux, et... c'est beau, c'est bon, c'est la réalité. La Bible dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gagnera. Amen. Et c'est, voilà, il y a 15 ans, 20 ans, c'était ce terme de conférence. Aujourd'hui, je vois des conférences, et c'est pour ça que je prêche pour expansion, et je suis dans ces comités-là, et je ne lâche pas le comité pour aller dans la prière à fond et dans l'intercession, parce qu'on a besoin d'une génération, et on est dans la même génération, peu importe l'âge qu'on a, sans compromis. Sans compromis, droit dans ses bottes, sachant qui on sert. Amen. Ne diluons pas l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas changé. Le monde change, mais lui ne change pas. Et son amour pour les autres ne change pas. Il est bien plus grand, bien plus extravagant que tu peux imaginer. Son amour pour toi, sa grâce pour toi qui vient surabonder là où péché abonde, ça ne change pas. Amen. Oh, Dieu est bon. Alors, si tu peux aller par tout le monde, commence près de chez toi. Je me souviens, quand j'étais mandataire, il y avait un jeune, je m'occupais d'un jeune qui s'appelait Thomas, qui était un ancien toxicomane qui avait lâché avec ça. Et puis un jour, pendant une dizaine de jours, j'avais plus de nouvelles de lui. Et c'était pas bon, c'était bizarre. Il venait d'acheter un nouveau scooter, il sortait de prison, il avait vécu la vie horrible. Et ça allait mieux, il était content et il y avait quelque chose qui se passait. Et puis je me dis, non, je vais y aller. Et puis je préviens ma chef, je dis, j'y vais, mais je le sens pas bien. Et effectivement, je rentre. Je frappe, rien, je clenche et pouf, il y a l'odeur qui te prend. Et j'ai vu son corps là qui était là avec la seringue encore et tout. Il avait rechuté, mais c'était le coup de trop. Et j'oublierai jamais le voir là et me dire, Jonathan, tu peux plus rester dans le silence quand tu vois la réalité de ce monde. Thomas, là, il est parti. Et je n'ai pas été pris de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, quoi qu'il y ait des fois d'une bonne culpabilité. Mais juste, ça m'a réveillé en me disant, purée, ce monde, il a vraiment besoin de Jésus. Il a besoin que tu parles. Il a besoin que tu ouvres la bouche. Et c'est la même chose. Dieu compte sur toi. Il pourrait faire sans toi, mais il décide de faire avec toi. Parce que lui, il dit qu'il a tout accompli à la croix. Il dit, maintenant, vas-y. Maintenant, vas-y parler à ton voisin. Ça fait combien de temps? Est-ce que tu connais même ton voisin? Est-ce que tu connais le nom de ton voisin? Est-ce que tu connais ce par quoi il passe? Est-ce que tu sais faire des bons gâteaux? Amène-lui des gâteaux. Je sais, je suis sûr que plusieurs le font ici. Alors continue. Ou alors, est-ce que tu te bats avec ton voisin? Non, il fait trop de bruit, il est toujours pareil, machin. Lui, il n'a pas coupé la haie. Enfin, nous, on est plus comme ça. Nous, c'est les maisons avec les terrains. C'est ma haie, je ne coupe pas son côté de haie. Il y en a qui vont en procès pour des bêtises comme ça. Prends soin de ton voisin. Même s'il te dérange, même si ça ne sent pas bon, même si le chien, il aboie, même si c'est toujours le même qui dégrade l'entrée, même si... Vas-y. Va là où personne ne va. Comme le saumon, tu remonteras contre-courant. Tout le monde commence à dire, ce voisin, il fait trop de bruit, ce voisin, il nous dérange. Ce serait bien qu'il y ait une expulsion, ça serait bien. Toi, vas-y, le Seigneur t'appelle. Va prendre soin, va voir ce qui se passe, va ranger sa maison pour lui. Va nettoyer. Là, tu es au service du Seigneur. Écoute, le Seigneur t'appelle. Et mon troisième point, du coup, c'est de faire des disciples, bien sûr. Acte 2, verset 36 à 42. On va prendre que le verset 38, nous dit, repentez-vous. C'est la fameuse prêche de Pierre où 3000 âmes se convertissent. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il me reste 5 minutes, je vous assure que je les tiens. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41, un peu plus loin. Eux donc ayant reçu sa parole furent baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Et ils persévéraient, écoutez bien, dans la doctrine des apôtres, dans la communion mutuelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ici, tout commence dans sa prêche par la repentance. Et je lisais cela, la repentance est un terme biblique très riche qui sous-entend une transformation fondamentale de l'esprit, du cœur et de la vie. Se repentir, c'est faire demi-tour. C'est cesser de marcher dans un sens pour courir dans la direction opposée. Se repentir, c'est commencer à penser différemment, croire différemment, ressentir les choses différemment, aimer différemment et vivre différemment. Loïs, est-ce que tu peux venir? Là, il se dit, mince, qu'est-ce qu'il fait? Je commence à m'installer. Bouge pas, reste ici. Disons que Loïs est l'image de Jésus. Et Loïs, elle dit, Jonathan, viens à moi, viens à moi. Viens, vas-y, fais-le. Viens à moi. Imaginez que c'est Jésus. Et moi, je commence à me dire, oui, ça serait pas mal que j'aille vers Jésus. Ça serait bien. Seigneur m'appelle à me repentir. Il m'appelle à la conversion, à faire demi-tour. Mais parfois dans notre vie, on dit « Ok, je viens vers toi, Jésus, d'accord ?» Mais je ne fais pas un demi-tour complet, je le fais à 40%. Mais regarde, je viens vers toi, Jésus, ok ? J'arrive. Parce qu'il y a un truc, j'ai envie de le garder pour moi, mais le reste, je le donne, ok ? Mais il y a ça dans ma vie, je ne suis pas prêt à te le donner encore. J'arrive, Jésus. Bouge pas, Jésus, j'arrive, ok ? Et là, tu pars. Jésus ne va pas faire ce chemin pour aller jusque toi. Parce que Jésus ne peut pas vivre. Dieu, n'y a pas de compromis avec le péché. Merci Loïs. Il n'y a pas de compromis avec le péché. Mais il est là et il t'attire. Et il te dit, non, je t'ai demandé de faire complètement demi-tour. Je t'ai demandé d'abandonner ça. Combien d'années j'ai lutté avec la pornographie? C'était dur. Et je me battais contre ça. J'avais l'impression de tout faire par mes forces. Mais je gardais tout pour moi. La honte, je ne vais pas en parler. J'aurais jamais imaginé le prêcher un jour. Et je le prêche partout où je vais, je n'ai pas de problème. Parce que j'accompagne les gens et je sais. Je sais que des gens ici sont concernés par ce fléau, par exemple. Et j'ai décidé un jour d'en parler. Je suis allé voir quelqu'un, j'ai dit voilà la honte. Voilà ce qui se passe sur ma vie. Et déjà, Dieu a commencé à enlever la honte parce qu'il m'a dit je l'ai porté à la croix. T'enferme pas dans cette honte-là, t'enferme pas dans cette culpabilité, ça ne vient pas de moi. Moi, je t'ai appelé à te sortir de là. Et là, j'ai commencé à cheminer avec cette personne-là. J'ai commencé à le côtoyer, j'ai commencé à prier avec lui. Je l'appelais quand c'était dur, c'était compliqué, etc. Et petit à petit, je retombais. Et je tenais plus longtemps, je retombais. Je tenais encore plus longtemps. Je retombais, je mettais la louange, je priais. Vous voyez, parce que des fois, on tombe et on part loin. Non, tu tombes. Reste proche de Jésus. Demande pardon, parce qu'il est là. Et là, tu continues à avancer avec lui, petit à petit. Amen. Et là, tout a changé. Aujourd'hui, je suis tellement fier de dire que j'ai été délivré de cela. Et il y a d'autres batailles aujourd'hui dans ma vie pour lesquelles je lutte. Et bien, j'ai la même pensée. Ok, Seigneur, je veux pas ça. Je ne veux pas tomber dans cet esprit de comparaison, par exemple. On regarde les réseaux sociaux, on regarde lui, on regarde elle. Oh purée, sa vie, elle est super. Hein. Oh purée, j'aimerais tellement. Oh, il est encore en vacances. Oh, il est bien. Moi, je suis toujours à l'église. Tous les dimanches, tous les week-ends, je suis pris. Moi, c'est presque 7 jours sur 7. Il y a toujours un truc, on sert le Seigneur. Il y a un, Sarah. Je ne sais pas si elle m'entend. Seigneur, t'as vu. Et c'est tout le temps. Et bien, on sert le Seigneur. On aimerait... Allez, en Espagne, on a un machin. Alors, tu regardes les réseaux sociaux, tu vois lui ou elle en Espagne encore, tu te dis, ah, c'est vraiment trop bien. Servir Jésus, c'est un privilège. Amen. Suivre Christ, c'est ma vie. C'est comme Paul, il dit, moi, c'est un gain. Amen. Tu peux me présenter toutes les plages du monde. Le jour où le Seigneur me dira, tu as un temps de repos, tu peux y aller. Mais je vais courir dans l'eau, je vais y aller, je vais profiter. Mais aujourd'hui, je suis là, ici et maintenant, et je suis dans la joie d'être avec vous. Amen. Et c'est ça la réalité. Ne te projette pas toujours sur la vie des autres à droite, à gauche. Non, parce que ça veut dire, d'une certaine manière, tu dis à Dieu, ma vie, elle ne me plaît pas tant que ça. Mais on n'ose pas le dire à Dieu directement. On n'irait pas dire à Dieu, ma vie ne me plaît pas. Quoique certains le disent, et vaut mieux le dire que le garder comme ça. Dis-le à Jésus parce qu'il prend soin de ce que tu dis. Regarde pas à la vie des autres. Regarde à ce que Dieu t'a donné. Au couloir dans lequel il te demande d'avancer et serre-le avec joie dans le couloir qui est devant toi. Amen. Alléluia. Allez, il me reste une minute. Ça va être un peu 2 minutes. Alléluia. Peut-être on peut te donner un défi. Premier défi, c'était va voir ton voisin. Amène-lui un gâteau. Fais quelque chose. Ta voisine qui est seule, la mamie en bas. Là. Vas-y. Un autre défi, est-ce que tu oserais filmer avec ton smartphone, peut-être plus pour les jeunes, ton témoignage et tu le publies sur Facebook? Moi, je le dis souvent aux jeunes, genre dire, comment on voit aujourd'hui que quelqu'un est chrétien et sa vie a changé, tu regardes ses réseaux sociaux. Moi, j'en vois des fois, et franchement, je les percute direct, les pauvres. Ils me connaissent. Mais je vois, je dis, purée, je regardais ta story, là, le 31, ça fumait la chicha, etc., et tu vas prendre ton baptême. Et là, et je sais que tu as bu, parce que l'autre me l'a dit, parce qu'on sait tout, hein, vous savez, à un moment, hein. Et je vais le voir et je dis, il s'appelle Paco, je dis, mon ami, Jésus, il a besoin de toi, il faut que tu le serves, il faut que tu le suives, mais il n'a pas besoin de toi dans ces bêtises-là. Il faut que tu fasses la différence. Paco, il débarque à l'église. Ses parents ne sont pas chrétiens, lui, il a encore toutes les pensées du monde, et il se dit, mais je peux... Eh non, mais tu y vas, tu l'enseignes, mais avec amour. Quand je dis je percute, c'est toujours dans l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, en face, ça ne va pas résonner, je t'assure. Mais Paco, j'y vais, sauf qu'après, le lendemain, je le vois. Puis on se fait un McDo, on va prier ensemble, et puis on va ensemble, et puis je l'accompagne à une visite, et puis etc. Et là, Paco, tu connais Paco, tu l'as vu. Et là, ça commence à changer dans son cœur. Amen. C'est ça la réalité du discipulat. Tu accompagnes, tu marches avec. Alléluia. Ah, je vais conclure là, mais j'avais d'autres choses à dire, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une image que j'ai vue circuler récemment. C'était, y avait Noé, David et Moïse qui étaient là. Et il y a quelqu'un qui s'approche de Noé, David et Moïse. Il dit, mais comment c'était de recevoir la pensée de Dieu, de construire un bateau comme ça? Et Moïse, comment c'était d'ouvrir la mer en deux? Et explique-moi, je veux vivre. Et David, etc., d'être roi, de battre Goliath. Comment ça s'est passé? Et il y a ce retour de phrase qui est juste merveilleux. Et ces hommes disent à personne qui l'interroge, et toi, comment ça fait de vivre avec le Saint-Esprit dans ce monde-là aujourd'hui? Quand j'ai lu ça, je dis, ah oui, c'est vrai. Oui, ils obéissaient, mais nous, on a la joie d'être le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous. Et alors qu'il est là, il nous fait marcher comme des vaillants héros. Soyons des Josué, des Caleb. Ne voyons pas la terre promise en disant, oui, mais il y a des géants, oui, mais là, j'y arriverai pas, oui, mais là, c'est compliqué, etc. Soyons comme des Josué, des Caleb. Le Seigneur t'a dit, va ici. Alors, il a promis cette terre pour toi en héritage. Alors, oui, il y aura des géants. Oui, ça ne sera pas simple. Oui, ça sera compliqué, mais il a promis d'être avec toi. Alors, tu peux y aller. Tu peux marcher. Tu peux marcher avec lui. Sache qu'il marche devant toi. Amen. La mentalité d'esclave, il faut sortir de cela. Et je suis d'accord, tu l'as dit pendant le temps de louange, Rachel. La mentalité d'esclave, ce n'est pas bon. Ouais, on va conclure avec ça. Très bien. La mentalité d'esclave, c'est pas bon. Quand Moïse arrive face à la mer, vous imaginez un peu les chars qui foncent avec toute une armée qui foncent sur le peuple hébreu. Moïse qui a reçu qu'il fallait conduire le peuple et le sortir d'Égypte. Et là, il commence à dire, mais attends, on était peut-être mieux en esclavage. Moïse, on va se faire tuer. Pharaon arrive, les chars arrivent, on va mourir ici. Mais Dieu avait prévu autre chose. Amen. Nous, on le sait. On sait que la mer va s'ouvrir. C'est simple, on l'a lu. Mais eux, ils ne savaient pas. Et là, d'un coup, ils commencent à se dire, mais on était peut-être mieux avant. Même dans l'esclavage, finalement, c'était mieux avant. Encore une fois, nous, on lit l'histoire. On connaît la terre promise. On sait Canaan. On sait tout ce qui vient. On sait la libération. Et on connaît aussi l'entêtement du peuple. Et ça commence dès là. Est-ce que tu vis encore dans l'esclavage? Est-ce que tu retournes en Égypte régulièrement faire un petit tour? Des fois, on est sécurisé. J'accompagne des gens qui sont pris par des fortes addictions. Des fois, c'est juste ce qu'ils connaissent. Ils connaissent que l'addiction. Ce qui est compliqué, c'est de sortir de là et de dire que ma réalité, c'est autre chose. Il y a autre chose de possible. Il y a une liberté possible. Il y a une libération possible. C'est quoi, toi, ton Égypte? C'est quoi le truc où tu retournes tout le temps? Parce que Dieu t'a libéré. Dieu a ouvert la voie devant toi par Jésus à la croix. Il l'a ouvert pour que tu sors de là. Il t'a libéré. C'est une réalité ce matin. Et il t'a appelé à aller vers. Mais toi, tu n'es même pas encore au aller vers parce que tu as encore à te poser la question si tu ne retournerais pas en Égypte. Alors, aujourd'hui, je te parle de faire des disciples. Sûrement, peut-être que pour certains, c'est très loin ce que je dis. Parce que tu es encore enchaîné en Égypte. Sache que Jésus est mort à la croix pour toi, pour briser les chaînes de l'Égypte, briser les chaînes de l'esclavage, briser les chaînes de l'addiction, briser les chaînes de l'héritage familial néfaste, briser les chaînes de l'esprit de religiosité. C'est les religieux qui l'ont mis à la croix. C'est pas la prostituée vraiment, enfin bien que c'est nos péchés qui l'ont cloué. Mais les religieux étaient là pour accuser. Ne soyons pas des religieux. Pratiquons la religion, oui, qu'il demande de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble un instant? On va prier et puis. Christ nous a donné un commandement qui peut coûter cher. Allez baptiser, enseigner toutes les nations. non pas rassemblez-vous, faites-vous baptiser, restez sur place. Non pas des consommateurs de l'Église, on devient obèse spirituel, mais l'Église en marche. Non pas la confrérie de la critique avec ce fameux repas du dimanche midi où on commence à noter la louange, on commence à noter la prédication, on commence à noter l'accueil d'un tel et un tel, mais une famille qui élève l'autre, qui encourage. Alors ma prière ce matin, et ma question plutôt ce matin, alors qu'on garde les yeux fermés, qui veut sortir de l'Égypte? Qui veut sortir du « c'était mieux avant » pour se projeter dans l'avenir d'espérance que Dieu a pour chacun ici? Qui veut passer de disciple à faiseur de disciples? Qui veut être un témoin? Qui veut prendre la suite? Qui veut prendre le témoin que Jésus te donne pour que tu ailles? Qui veut cesser de ressasser sans cesse l'Égypte où c'était mieux avant? Qui est prêt à servir Jésus, à le suivre comme un disciple, peut-être jusqu'au sang? Tu peux te dire que ça ne te touchera pas toi ici? Je ne connais pas les temps qui arrivent. En tout cas, si on regarde un petit peu plus loin l'Église persécutée, on a des frères et des sœurs qui le vivent jusqu'au sang. Seigneur, je te demande pardon personnellement pour toutes les fois où j'ai manqué le but, où j'ai manqué la cible, où par mon orgueil, par ma fausse humilité, par ma désobéissance, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Et finalement, je suis retourné à l'Égypte. Je suis retourné à mon péché mignon. Il n'y a rien de mignon dans le péché. Je te demande pardon. Peut-être, si c'est ton cas ce matin, repens-toi là où tu es. Demande pardon. Tout commence par là. Et le Seigneur qui est là dans le lieu secret, il te voit, il touche ton cœur, il pardonne et il efface. Et Seigneur, dans ce deuxième temps, alors que je me repens devant toi, moi je te dis, je veux te suivre, Jésus. Les rêves que l'ennemi a étouffés, a cherché à voler, qu'ils soient ressuscités maintenant. Les rêves de Dieu pour ma vie, qu'ils soient ressuscités maintenant au nom de Jésus. Que les pensées de Dieu soient mes pensées. D'ailleurs, maintenant, nous amenons captive toute pensée maintenant. Toute pensée qui ne confesse pas le nom de Dieu maintenant. Nous amenons captifs à l'obéissance de Christ maintenant. Que ce soit tes pensées dans mes pensées. Non pas des pensées de comparaison qui cherchent toujours à ce que l'autre a et qui me laissent dans une position statique. Mais tes pensées deviennent mes pensées et qui me font alors aller dans le mouvement. Seigneur Jésus, merci parce que tu as aimé le premier. Et tout est question d'amour. Tout est question d'amour. Quand tu viens, tu m'interpelles, c'est question d'amour. Quand tu viens et tu me reprends, c'est question d'amour. Quand tu viens et tu m'encourages, c'est question d'amour. Parce que tu veux le meilleur pour chacun.